Aujourd'hui, la masterclass de Claire Simon avec Mathilde Wagman.
Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette masterclass de Claire Simon enregistrée ici ce soir au Théâtre de l'Alliance Française. Et bonsoir à vous, Claire Simon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de vous prêter au jeu de cet exercice. Le principe de cette collection, je le rappelle, c'est de décortiquer les processus d'élaboration, de fabrication d'une œuvre. Ce soir, il va donc être question de votre travail de cinéaste. Depuis un peu plus de 30 ans, vous construisez une œuvre de cinéma dont l'une des particularités est qu'elle se situe aussi bien du côté du cinéma dit documentaire que du cinéma de fiction, partition que vos films ne cessent au fond de mettre en question, on va en parler. Nous sommes beaucoup à avoir découvert vos films avec Récréation, qui était sorti en salle en 98, un film pour lequel vous aviez tourné pendant un an dans la cour de récréation d'une école maternelle et qui nous montrait l'intensité des drames qui se jouent dans les jeux des enfants entre eux. Et film auquel faisait écho, je trouve, votre tout dernier film sorti en salle, Première Solitude, sorti l'an dernier, lui aussi tourné en partie dans une cour d'école, cette fois-ci d'un lycée, avec des adolescents, élèves de première à Ivry-sur-Seine, adolescents que l'on voit dialoguer, discuter entre eux de leurs histoires, de leurs familles, de leurs passions. Parmi vos documentaires, je ne vais pas tous les citer, mais parmi ceux qui sont sortis récemment, je voudrais mentionner aussi Le bois dont les rêves sont faits en 2015, un portrait de ce lieu qu'est le bois de Vincennes et qui constitue, pour ceux qui le fréquentent, une sorte de paradis perdu. Et puis Le concours en 2016 pour lequel vous aviez filmé le processus du concours d'entrée à la FEMIS, l'école de cinéma, une école que par ailleurs vous connaissez bien puisque vous y avez été pendant une dizaine d'années en charge du département réalisation. Après Sinon oui en 97 et Ça brûle en 2006, vos deux premiers longs-métrages de fiction, c'est grâce à l'entremise de la fiction que vous nous aviez fait pénétrer dans l'intimité des bureaux d'un planning familial, avec Les bureaux de Dieu en 2008. Les conseillères du planning, on s'en souvient, étaient incarnées par des actrices, par Nathalie Baye, Nicole Garcia, Isabelle Carré ou Rachida Brakni notamment. Et puis en 2013, vous avez en quelque sorte signé un double portrait de ce lieu qu'est la Gare du Nord à Paris. Il y avait eu côté pile le film de fiction qui s'appelait Gare du Nord avec Nicole Garcia, Reda Kateb et François Damiens, et côté face un documentaire Géographie humaine, un parcours dans la gare à la rencontre de ceux qui y passent, qui la traversent ou qui y vivent parfois. Et enfin, et je vais m'arrêter là pour cette longue présentation, tout récemment vous avez réalisé un objet filmique d'un format nouveau pour vous, je crois, puisqu'il s'agit d'une série qui va être diffusée très prochainement à partir du 13 septembre sur Ciné+. Une série qui s'appelle Le Village et qui compte pour l'instant deux saisons. Le village en question, c'est Lussas, dans l'Ardèche, une petite commune dans laquelle vous avez filmé et mis en parallèle le travail de deux communautés. D'une part, celle qui, autour de Jean-Marie Barbe, le fondateur du Festival Les États Généraux du film documentaire, œuvre pour la diffusion, la production, la défense du cinéma documentaire de création. Et d'autre part, celle des agriculteurs de cette petite commune rurale. Alors ce soir, pour parler de votre travail, on va s'appuyer sur notamment sur le village et puis sur Première Solitude, vos travaux récents, mais pas seulement, on parlera aussi d'autres films. Mais pour commencer cette conversation, je voudrais vous demander tout simplement comment vous, dans votre parcours, vous en êtes venu à vous tourner vers le cinéma. Vous avez commencé assez jeune, je crois, vos tout premiers courts-métrages, vous aviez une vingtaine d'années. Comment ça s'est passé pour vous, le fait de vous dire à un moment voilà, je veux tourner des films, je veux faire du cinéma mon métier.
Je pense que quand j'étais petite, je voulais être une grande actrice ou une tragédienne, je sais pas. Et en même temps, je voulais être détective privée, comme dans les romans pour enfants. Le Club des Cinq, voilà. Et je vivais à la campagne, loin du village, et peut-être que c'est une association des deux, le théâtre et la campagne, ça a donné le cinéma. je sais pas.
C'est une équation intéressante, théâtre plus campagne égale cinéma.
Oui. Après, comme mon père était très malade, il a dû être hospitalisé à Paris et je suis venue à Paris assez jeune. Et j'ai connu j'ai fréquenté la cinémathèque et j'ai connu, un monde de cinéphiles qui m'a beaucoup fascinée et passionnée. Mais oui, je voulais faire de l'anthropologie. J'en ai fait un peu. J'ai étudié l'arabe classique et le berbère. J'étais très intéressée par ça. Mais c'est vrai que le cinéma m'a attrapée. Et puis à cette époque-là, moi je voulais pas du tout faire d'école parce que j'étais persuadée que on m'apprendrait des choses déjà du passé. J'étais très arrogante. Et j'ai tout de suite. En fait, j'ai trouvé du travail grâce aux Algériens et je les remercie à chaque fois. Parce que j'ai été en Algérie et j'ai rencontré avec des amis et j'ai rencontré les gens de la Cinémathèque d'Alger. Et un des deux directeurs de la Cinémathèque d'Alger, qui était un lieu extraordinaire, vraiment au milieu d'Alger, où il y avait il y avait toutes sortes de films et toutes sortes de gens qui venaient voir les films, c'était magnifique. Et Yazid Rocha m'a dit, tu devrais aller à l'ONCIC à Paris, tu trouverais des stages de montage et tout ça. Et c'est effectivement ce que j'ai fait. Parce que je connaissais personne dans le cinéma à Paris. Et j'ai appris et je suis devenue stagiaire monteuse avec des cinéastes algériens. Et c'est grâce aux cinéastes algériens que j'ai connu des cinéastes français. Donc, c'était un très beau chemin, quoi. Voilà.
Qu'est-ce que, dans votre pratique de cinéaste par la suite, il vous est resté de cette première expérience et formation au montage? Vous avez été stagiaire et vous avez aussi été monteuse après?
Oui. J'ai fait tout le cursus, mais dès que j'ai commencé à être stagiaire, j'ai tout de suite commencé à tourner des courts-métrages que je finançais moi-même. Voilà. Mais c'est-à-dire que le montage, c'est une grande école du cinéma. C'est-à-dire que on voit les acteurs, qu'on voit ce qui marche, qu'on voit ce qui marche pas, qu'on voit les essais, voilà. Oui, j'ai beaucoup appris. Et puis on parle beaucoup. On parle des plans. On parle. Il y a énormément de discours entre le monteur, le réalisateur, les assistants, stagiaires, etc. Qui est pas du tout celui de la critique. C'est pas le même discours. C'est vraiment, et en même temps c'est une réflexion assez profonde et complexe à chaque fois. Et puis c'est quelque chose sur les acteurs, sur les gens filmés. On voit beaucoup de choses au montage.
Vous avez aussi suivi, je crois, une formation aux ateliers Varan au début des années 80.
Très très vite après, quand j'ai commencé à vouloir faire des courts-métrages et que j'en ai réalisé et tout ça, je me suis trouvée sur le cursus de la fiction. Et par chance, j'avais fait deux courts-métrages, dont un au Grec. Et heureusement, quelqu'un de chez Varan était au Grec. Et j'ai réussi à avoir un stage gratuit chez Varan. Et j'ai découvert que, les ateliers Varan qui avaient été créés par Rouch et Boviala et qui étaient une école de cinéma documentaire et de cinéma direct. À l'époque, c'était même cinéma direct ou rien. Et moi, j'ai découvert que on pouvait filmer et que ça serait projeté en Super 8, que ça serait projeté, que c'était du cinéma. Et que on pouvait aussi faire un film qui était improvisé et qu'on n'était pas obligé d'écrire pour faire un film, écrire ce qu'on allait faire, que on pouvait partir avec une idée, avec des gens qu'on avait envie de filmer, avec quelque chose qui se construisait au fur et à mesure. Et ça a été pour moi un grand soulagement et une grande révélation. Oui.
Soulagement parce que
les voyais tous, parce qu'après, quand j'ai commencé à être assistante monteuse, tout ça, je voyais les autres et puis qui écrivaient, réécrivaient, réécrivaient, que les gens qui arrivaient à faire un long métrage, ils avaient écrit 10 fois un scénario, il restait presque plus rien de bien dans le scénario à la fin. Enfin, je trouvais ce processus extrêmement corporatiste. Enfin, j'avais l'impression que ça s'était rentré dans la corporation traditionnelle du cinéma et que c'est vrai que à cette époque-là, c'est-à-dire les années 80, le cinéma était un cinéma qui se regardait dans la glace, quoi. C'est-à-dire qu'après les années post-68 Arnes, où il y a eu un cinéma plus politique, beaucoup plus inventif, qui cherchait des nouvelles formes, etc., les années 80 étaient vraiment un cinéma très sur le cinéma. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai vu le premier film de Depardon et que ça a été pour moi un choc, ça s'appelait Numéro Zéro. Et je me suis dit, ah oui, voilà, là on peut inventer quelque chose qu'on n'a jamais vu, quoi.
Et ça veut dire que vos premiers désirs, vos tout premiers rêves de cinéma, c'était des rêves de fiction et que c'est aux ateliers Varan et en découvrant cette pratique du cinéma documentaire plus libre que vous vous êtes mis à vous-même avoir des envies de ce côté-là?
Non, c'était plus sur la question de la forme, quoi. C'est-à-dire que je trouvais que la forme fictionnelle reconnue, mais il y a des tas de formes magnifiques. Enfin, je me souviens des films d'Angelopoulos ou de, évidemment, de Godard et tout ça, où ça me, ou de Romer, où je trouvais ça magnifique. Mais bon, quand j'ai vu le premier film de Depardon, le premier film de Kramer, par exemple, Milestones, ça a été pour moi, alors que c'est un film pratiquement entièrement de fiction, mais ça ne se voit pas. Ça a été pour moi des chemins pour inventer des nouvelles formes. Alors, j'avais l'impression que dans le cinéma, disons, qui sortait en salle, etc., c'était pas ça l'idée, quoi. Et je pense que j'étais pas la seule, en fait, dans ce cas-là, puisque dans le début des années 90, on s'est retrouvé un certain nombre à avoir envie de faire du cinéma documentaire, et on a fondé Ad-Hoc et on s'est mis à parler entre nous. Et ça a été très très fort, hein, ce moment-là, avec Mariana Otero, avec Denis Garbrandt, avec Nicolas Philibert. Et puis moi, j'ai fait une fois que j'avais fait un long métrage toute seule, qui était Les Patients, qui était pour la 7 Arte.
Dans lequel vous suiviez un médecin, voilà. Vous filmiez des scènes entre ce médecin et ses patients.
Voilà, c'est son dernier mois d'exercice. Et ça m'a permis de rencontrer les films d'ici, qui étaient à ce moment-là une espèce de ce que Luc Moulet a décrit comme la ruche. Et c'était vrai.
Cette société de production, les films d'ici, voilà. Animés par Richard Coppens et Serge Laloux.
Voilà. Et on allait tous voir les films les uns des autres. Et Kramer est venu aussi aux films d'ici. Et donc, il y a eu un moment, Hervé Leroux, Richard Dindo, voilà. Et tout d'un coup, on s'est mis à parler. On a eu cette grande chance que n'ont pas les gens forcément de fiction, sauf quand ils sont parfois dans une école comme à la Fémis et qui disent, ou dans une fac et qu'ils arrivent à se trouver. Nous, on avait vraiment cette chose de penser que le cinéma, qu'on pouvait faire un nouveau cinéma à travers le documentaire, mais pas exclusivement. Moi, j'ai tout de suite fait après Coûte que coûte un premier film de fiction qui s'appelait Sinon oui et qui était parti d'un fait réel, mais qui est un film totalement de fiction. Voilà.
Et dès vos premiers courts-métrages, on peut voir certains de vos premiers courts-métrages dans un DVD qui les a rassemblés, et on voit que même dans des films donc qu'on dit de documentaires, c'est-à-dire tournés avec des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels, précisément, on n'est pas du côté du cinéma direct pur, comme vous disiez, qui était un peu la ligne pure des ateliers Varan à l'origine, mais tout de suite, il y a des processus de mise en scène. Je pense notamment à L'Argent de Patricia, qui est un film dans lequel vous filmiez la secrétaire des ateliers Varan, et son rapport à l'argent, ses difficultés avec l'argent, mais dans un court-métrage dans lequel vous mettez en scène votre propre rapport avec elle, la manière dont vous la dirigez. Ça veut dire que dès le début, vos envies, justement, enfin, vous vous êtes pas laissé aspirer par ce dogme, si c'en est un, du cinéma direct?
Non, mais je crois que, en fait, quand je fais des films documentaires, je fais en documentaire ce que d'autres font en fiction. C'est juste ça. Je prends pas. C'est vrai que je filme des choses que je connais, qui sont proches de moi ou dont le chemin pour les atteindre n'est que celui qui est pas très loin. C'est une des choses qui m'avait arrêtée dans l'ethnologie, c'est que je ne voulais pas aller en tant que blanche, aller étudier des peuples lointains, parce que ce rapport-là me paraissait extrêmement compliqué et que j'avais plutôt envie de travailler sur l'ethnologie. Et pourtant, ça m'intéressait beaucoup, hein, mais j'avais plutôt envie d'appliquer les systèmes de l'ethnologie sur place et peut-être d'arriver à un rapport plus moins surplombant, parce que il est évident que l'ethnologie, on le voit, a été aussi un fer de lance du colonialisme. Donc moi, c'était pas ce chemin-là qui m'intéressait. Donc effectivement, quand j'ai fait, je trouvais que c'est-à-dire que le cinéma de fiction, de dire que la secrétaire des ateliers Varan, qui était ma copine d'enfance et tout, était un sujet. C'était comment elle fait avec l'argent. C'était quelque chose qui, évidemment, d'autres gens n'y pensaient pas. C'était tout simple, c'était là devant, quoi. Et c'était pourtant une histoire sociale, une histoire, voilà.
Si on reprend le chemin, le processus de création d'un film, je voudrais vous interroger, Claire Simon, sur la manière dont naît chez vous l'idée, l'envie d'un film. Qu'est-ce qui constitue le point de départ, et à quel moment vous vous dites là, je sais qu'il va y avoir un sujet de film. Peut-être pour ancrer la chose, on peut parler de première solitude, votre dernier film. Alors je ne sais pas si c'est représentatif, parce que ce film est né, je crois, à la base de, non pas d'une commande, mais d'une chose qu'on vous a proposée, qui était d'animer, de venir participer à la classe de cinéma, enfin participer à l'enseignement de cinéma que recevaient des élèves de première de ce lycée, donc à Ivry, à la base, je crois, pour travailler sur un court-métrage de fiction, justement.
Oui, c'est le Luxi, le cinéma Le Luxi et le lycée, avec la mairie, qui font un partenariat, et chaque année, un cinéaste vient y faire un film à lui, à elle, avec les élèves, qui donc vont jouer et vont l'assister techniquement, etc. Et donc, j'avais dit oui, et quand j'ai rencontré les élèves, je leur ai dit, mais moi, je peux rien écrire si je vous connais pas, quoi, un peu. Parce que il faut que, voilà, ils étaient 10 dans la classe option cinéma. Et donc, je leur ai demandé, d'abord, on a fait une rencontre, et j'ai filmé cette rencontre, un à un, et il y en avait deux qui m'assistaient, et j'ai découvert, là, d'une part, on a commencé à parler, moi, je leur ai dit, bon, on va parler, parce que j'avais une idée derrière la tête, je vous propose de parler de la solitude. Parce que c'est une expérience que je connais, que vous connaissez. Donc, malgré nos différences d'âge, on va peut-être se comprendre.
Mais quand vous dites « j'avais une idée derrière la tête », ça veut dire que, au moment même de cette rencontre filmée, vous savez que peut-être de ça va naître un film qui sera un film documentaire autour de ces élèves ?
Non, je pensais répondre à la commande, faire un court-métrage de fiction. D'accord. Et je cherchais les drames de l'amitié. Donc, j'ai dit « la solitude ». Et puis parce qu'aussi, bon, il y avait autre chose. Quand j'ai fait Le bois dont les rêves sont faits, sur le bois de Vincennes, et que j'ai accompagné un peu le film, parfois les gens me disaient, oui, mais tous les gens sont seuls au bois, comme si c'était un crime, alors que tous les gens ne sont pas seuls au bois. Mais c'est vrai qu'aussi on y va aussi parfois seul pour y être bien seul. Et je m'étais dit, mais c'est pourquoi c'est si mal d'être seul, quoi. C'est si mal considéré, quoi. Et évidemment, encore plus pour les femmes. Et donc, j'ai amené ce mot comme ça, sachant qu'il portait quand même beaucoup de choses. Et quand j'ai commencé les entretiens avec les élèves, ça a été, vraiment, ils se sont mis à parler. Les uns derrière les autres, et tous voulaient me dire, ceux qui m'accompagnaient disaient, je peux rester et tout, parce qu'on était, donc ça faisait 3, quoi, avec moi 4, et donc j'ai compris qu'ils ne connaissaient pas la vie les uns des autres, parce qu'ils se voyaient qu'une fois par semaine, et que ça les intéressait beaucoup. Et tout ce qu'ils m'ont raconté, c'était les parents principalement, ce qu'ils aimaient bien faire et tout ça, mais surtout les parents et les familles cassées, quoi. Et là, c'était tout à fait autre chose que ce que j'avais prévu, là, pour le coup. Donc, j'ai passé une journée à filmer, et ensuite, j'ai monté ces entretiens pour moi, pour les connaître, pour comprendre ce qu'il y avait en eux, et c'était absolument bouleversant. Et donc, du coup, je suis revenue les voir en leur disant, écoutez, ça serait bien que vous avez dit des choses magnifiques, ce qui était absolument vrai. Ils avaient dit des choses saisissantes. Et j'aurais dit, ce qui serait bien, c'est que vous, puisque j'ai vu que vous vous connaissiez pas, que vous vous racontiez entre vous vos vies que vous connaissez pas ici. Parce que ils avaient pas envie de faire un documentaire comme ça, d'interview, etc.
C'est-à-dire ou face caméra, ils raconteraient leur histoire.
Moi, j'aurais été. Et puis, je trouve toujours que l'entretien. Enfin, je ne fais que paraphraser des grands penseurs comme Michel Foucault est une forme classique quand même d'interrogatoire dans notre société, quoi. Et que ce soit l'entretien d'embauche, que ce soit l'entretien psychanalytique, l'entretien au planning familial, etc. Moi, j'avais quand même passé très longtemps à travailler sur les entretiens au planning familial. Et je me disais que c'était vraiment, évidemment, le rêve qu'on a, c'est d'entendre les ados se parler entre eux, quoi. Et je leur ai proposé ça. Voilà. Et eux, ils étaient très contents qu'on fasse ça comme ça. Et donc, ils avaient l'impression d'être à la fois des acteurs d'un film, et en même temps, tout le dialogue était complètement le leur. Et ils cherchaient, et j'ai passé mon temps à les pousser à s'écouter. Parce que justement, j'avais fait les bureaux de Dieu et le concours, etc. Et je sais, surtout après les bureaux de Dieu, combien l'écoute est quelque chose de puissant, et qui est rarement raconté, quoi. C'est-à-dire que moi, j'en suis venue à penser que c'était l'écoute qui dirigeait la parole, vraiment, et même j'en ai parlé avec des psychanalystes en leur disant, mais en fait, quand vous écoutez, c'est vous qui parlez, en fait, quoi. Et au planning, c'était vraiment très très fort. Et j'ai vraiment énormément appris avec les conseillères à comment elles écoutaient, comment elles travaillaient. Et donc j'ai essayé d'expliquer aux élèves du lycée Romain Rolland à Ivry que écouter, c'était comme échapper à sa propre vie, c'était comme voir un film, c'est comme lire un livre, c'était tout d'un coup, voilà, on vit dans la vie de l'autre, quoi. Et le temps que c'était ça qu'il fallait obtenir de l'autre, qu'il se jette dans cette parole, et que c'était au fond très confortable de s'oublier le temps qu'on écoute, quoi.
Comme au cinéma et comme quand on lit un livre, c'est-à-dire qu'on sort de soi. Et c'est vrai que du coup, l'écoute devient aussi, enfin cette écoute-là et cette écoute particulière qui est celle d'adolescents entre eux est aussi d'une certaine manière le sujet du film. Et c'est très frappant comme dans les scènes, donc dans ce dispositif que vous nous racontez de deux ou trois, parfois quatre adolescents qui se parlent entre eux. Vous filmez aussi bien celui qui parle, mais très vite, très souvent, la caméra part sur celui qui écoute et puis sur aussi ses mains. Enfin, c'est vraiment cet échange-là que vous cherchez
Oui, parce que si on filme des gens qui parlent, bon, moi, je ne fais pas que ça, mais si on fait un film, il faut qu'il y ait du cinéma. Et c'est quoi le cinéma ? C'est quand au moins on a l'impression d'un moment, voilà, d'une scène. Ce que la télévision a totalement détruit par les plateaux, etc., où donc finalement ce qui compte, c'est juste le sens de ce qui est dit, et il y a plus jamais l'impression d'une scène, d'un moment, enfin, même s'il court beaucoup derrière ça. Mais moi, j'essaye tout le temps de faire en sorte qu'on ait l'impression d'un moment et de quelque chose, et que ça se fait autant par celui qui parle que par celui qui écoute. Et c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé dans les bureaux de Dieu, où là, j'avais même mis en place, enfin, j'avais écrit tous mes mouvements de caméra à l'avance, parce que tout le texte était c'était un verbatim que les conseillères et les consultantes avaient appris par cœur.
Il faut peut-être juste préciser, donc, les bureaux de Dieu, et c'est bien qu'on en parle parce que c'est intéressant aussi sur la manière dont naît l'envie et dont se construit la forme du film, ce trajet-là. Donc, Les Bureaux de Dieu, c'est un film donc qui se passe entièrement, je crois quasiment, dans les bureaux d'un planning familial et qui montre des scènes d'échanges entre les conseillères du planning et des jeunes femmes qui viennent les voir pour plein de raisons. Et le dispositif de ce film-là, si on peut employer ce mot-là, c'est que les conseillères sont jouées par donc des actrices connues et les jeunes femmes qui viennent les voir par des actrices non professionnelles, comme on dit, avec cette chose particulière que pour écrire ce film, qui est donc un film de fiction, vous vous êtes nourri d'une enquête très longue que vous avez menée, je crois, et même d'enregistrements que vous avez fait dans les bureaux d'un vrai planning, c'est-à-dire que les dialogues sont ceux
qui ont été dit.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, pour ce film-là, est-ce qu'à la base, il y a eu l'envie d'abord de tourner un documentaire, tout simplement, sur le planning, et puis, petit à petit, c'était pas possible, et donc est née cette forme? Comment ça s'est passé
Oui, c'est-à-dire que là, c'était un cas particulier, c'était aussi une demande du planning de Grenoble, où elle m'avait contactée, parce que j'avais fait avant un film de fiction qui s'appelait Sinon Oui, et qui était sur une jeune femme qui simulait une grossesse, et voilà. Et donc, à cause de ce film, elle m'avait proposé de venir faire des petits films, en fait, des petits films pour expliquer comment on fait la contraception, comment on fait, voilà, enfin, des trucs comme ça. Et donc, j'avais dit, écoutez, je vais venir voir ce que vous faites au planning. Et j'ai passé une semaine à Grenoble et j'étais sidérée, quoi. Je me suis dit, mais il faut absolument raconter ce qui se passe là. C'est magnifique, c'est extraordinaire et on se rend pas compte. On se rend pas compte que ce sont ces femmes et ces médecins hommes aussi qui sont là, qui écrivent notre société et qui l'inventent et qui savent même pas où ça va tellement, enfin, moi, j'étais bouleversée, quoi. Et je savais pas comment faire puisque le principe du planning, c'est l'anonymat. Mmh. Et que ça sert à rien de dire, je vais filmer vos pieds, etc. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les situations d'écoute et puis la vie du planning, leurs discussions, etc. Je trouvais ça vraiment très, très fort. Et surtout, c'était fini. Il y avait plus de lutte. Enfin, il y avait des luttes, bien sûr. Mais, enfin, je veux dire, le droit à l'avortement et le droit à la contraception étaient acquis déjà depuis 20 ans ou 30, voilà, 30 ans. C'était plus le problème. Enfin, il y avait des violences, il y avait eu le sida, il y avait beaucoup de choses. Mais disons que c'était surtout, j'étais intéressée par ce qu'il y avait de plus banal. Une fille vient, elle a oublié sa pilule. Et là, toute la société a changé, quoi. C'est-à-dire, on voyait comment une jeune fille, enfin, dans les dialogues, on voyait que cette question de prendre la pilule tous les soirs, de l'oublier, de tout ce que ça charriait, de son histoire et comment les conseillères faisaient apparaître ça et tout. Et donc, moi, j'étais bouleversée et je ne savais pas comment j'allais faire. Donc, peu à peu, j'ai eu cette idée parce que je voulais aussi le mot planning familial, c'est un mot qui est un peu, tout le monde dit, oh là là, oui. Et puis quand on parle à des jeunes, ils disent, ah ouais, ouais, mais moi, j'ai pas besoin d'y aller et tout. Enfin, comme si c'était que dans les quartiers défavorisés qu'il y avait le planning, etc. Alors, c'est toutes les femmes. Et d'ailleurs, au planning, il n'y a pas que des jeunes qui viennent. Il y a aussi des femmes plus âgées. Puis il y a des femmes très âgées qui y travaillent. Donc, c'est aussi un monde de femmes. Et le cinéma n'a filmé que des bonnes sœurs ou des coiffeuses, et donc ça valait le coup de filmer autre chose, quoi, je trouvais. Et donc j'ai cherché, j'avais l'idée d'avoir des vedettes, et j'ai compris. Alors j'ai fait un atelier à la fac avec des étudiants, et je leur ai proposé, voilà, de faire comme les psychanalystes font parfois une analyse didactique. Je leur ai proposé de tourner des séquences didactiques. C'est-à-dire qu'on a tourné deux séquences, deux entretiens que j'avais enregistrés. D'abord, il y a eu l'idée d'enregistrer les entretiens, ce que j'ai fait. Et là, j'ai compris comment faire. J'ai compris, j'ai fait venir des actrices, j'ai fait jouer des étudiantes, des gens de la fac et tout. Et j'ai compris le système. Et là, j'ai dit, voilà, à Richard Coppens, qui était le producteur de ce film, Voilà comment on va faire. On va prendre des actrices célèbres pour faire les conseillères du planning et on va prendre des inconnues pour faire le public, ce qu'on appelle le public. C'est-à-dire toutes les femmes qui viennent au planning ou les gens qui viennent au planning. Et on a poussé ce principe très loin, au point que jamais elles ne se rencontraient avant qu'on tourne et que tout le monde apprenait les textes. Donc c'est comme si j'avais fait un documentaire sur le papier, que j'ai monté sur le papier et qu'ensuite j'ai réalisé en fiction. Et j'ai mis assez longtemps à me convaincre que c'était un vrai défi de cinéma, que c'était vraiment de la fiction et tout ça. Et puis une fois que j'ai été convaincue, ça a été très vite, ouais.
J'en reviens à cette question du point de départ, de la manière dont l'envie d'un film peut naître et dont on se dit que il y a matière effectivement à un film. Beaucoup de vos films s'ancrent dans un lieu précis. C'est l'une des lignes fortes de votre cinéma. Je pense à la cour de récréation de l'école maternelle de récréation, le bois de Vincennes pour le bois dont les rêves sont faits, on l'a dit, la gare du Nord, bien sûr, pour les deux films dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que un lieu précis que vous aimez ou dont vous êtes frappé, je ne sais pas, par la singularité, ça peut être un moteur de désir pour vous?
Mais parce que moi, je cherche ce que c'est qu'une histoire. Et j'ai l'impression, depuis toujours, quoi, et j'ai l'impression que partir d'un lieu, c'est une autre manière d'attaquer la question de l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire? Comment ça a lieu? Justement, on dit une histoire a lieu. Donc, voilà. Par exemple, quand je suis partie Gare du Nord, j'avais pas d'histoire et je me suis dit, dans ce lieu, il y a des histoires. Et donc, je pars du lieu et je vais chercher les histoires là. Et voilà. Parce que j'ai l'impression que et le lieu et le documentaire ou la réalité, enfin que c'est intéressant, c'est pas, enfin il y a des films magnifiques, sublimes et tout, c'est pas la peine de les refaire quoi. Il faut trouver un autre chemin. Et voilà, le lieu est un autre chemin, c'est un chemin traditionnel du documentaire. Parce que c'est, comment dire, le film en béton, quoi. C'est le film en dur, quoi.
C'est un territoire. Le territoire voilà. Désigne aussi un processus de tournage. On sait voilà. Qu'on va être là voilà. Tous les jours, par exemple.
Voilà. Mais par exemple, voilà, la question pour moi est avant tout celle de qu'est-ce que je me demande toujours. Quand est-ce que c'est une histoire? Comment on le voit? Et ça a été une question très forte du village tout le temps, dans le tournage à Lussas. Et le lieu est une autre manière d'aborder les histoires. Voilà. Ça a été comme ça pour chaque film. J'ai l'impression que le lieu contient les histoires, de façon presque magique, quoi. Et ça a été d'ailleurs dans Récréation mon premier principe, et c'est ce que j'ai même écrit. J'ai dit c'est une topographie de la cour, et dans la cour, les histoires sont là, et elles sont dans des lieux, le banc, la gouttière, là. Et c'est ce qui s'est passé, sans doute, on ne voit que ce qu'on devine, comme voilà, enfin, je veux dire, on dit toujours qu'est-ce que c'est que le réel. Le réel, c'est les questions qu'on pose au réel. Donc évidemment, je pars avec une question qui est les lieux contiennent des histoires, ils les génèrent. Mais je crois profondément, et je crois que c'est une très vieille idée, c'est une idée qui vient des Grecs, quoi, que l'histoire, elle est plus forte que tout. C'est-à-dire, on peut pas dire non à l'histoire. C'est Œdipe qui nous l'explique, quoi. Voilà. Et donc, moi, je cherche ça.
Vous dites, pour Récréation, c'est même quelque chose que j'ai écrit, ce film, et une topographie du lieu. Est-ce que l'écriture, c'est quelque chose que vous aviez écrit avant? Est-ce que il y a un moment où vous avez besoin de mettre sur papier l'idée du film avant même peut-être de commencer à tourner ou pendant le tournage? Est-ce que écrire un film, c'est important pour vous, Claire Simon?
Oui, sans doute. Moi, ça m'énerve. Hein. Je suis contre. Bon, voilà.
Alors,
je suis
pourquoi?
Contre parce que je suis pour la littérature, je suis pour l'écriture, la vraie écriture, le roman, etc. Je suis pour l'écriture. Et donc, je suis contre cette écriture qui serait une écriture d'intention, c'est facile d'avoir des bonnes idées, des bonnes intentions. Tout le monde.
Il faut dire que l'écriture dans le cinéma tel qu'il se construit en France, c'est un peu un passage obligé du processus de financement d'un film. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est imposé un peu au cinéaste. Bon, dans un film de fiction, c'est particulier, mais en documentaire, on demande pour obtenir des financements, des notes d'intention, parfois même des scénarios documentaires, ce qui est une idée compliquée.
Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on demande l'argent pour faire quelque chose qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer, on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors effectivement, il faudrait qu'on ait un peu de crédit. Voilà, au sens, on a du mal à le trouver, ce crédit, et on devrait avoir du crédit, en fait.
Bien sûr, dans tous les sens du mot crédit.
Ouais. Bien sûr que le mot, il y a quelques mots et surtout des principes. Moi, je pars assez vite avec un principe que je respecte. Même si j'aime bien, par exemple, je suis pas obsessionnelle, c'est-à-dire que j'ai un principe, une contrainte, etc. Mais parfois, je la casse au moins une fois, quoi. Pour dire que j'en suis consciente, etc. Mais bien sûr, du coup, l'écriture est une manière de réfléchir, évidemment. C'est très important. C'est très différent de réfléchir soi-même en écrivant que de réfléchir pour séduire des programmateurs de chaînes, quoi. C'est pas la même chose.
Mais ça veut dire que pour vous, il y a un moment où dans l'élaboration du film, y compris au moment même du tournage, quand vous commencez, ça vous aide de mettre sur papier quelque chose qui est de l'ordre d'une pensée de ce que vous êtes en train de faire,
hein. Un petit peu, pas énormément. Je pense que je rêve. Enfin, par exemple, Première Solitude, pour moi, c'était vraiment formidable. J'ai écrit un quart de page avant de commencer et le travail s'est fait en cinéma. C'est-à-dire que on est aujourd'hui, et c'est arrivé autrefois, on avait très peu de pellicules, très peu de moyens de travailler en cinéma. Aujourd'hui, on peut vraiment penser directement au cinéma. Ma comparaison classique, c'est de dire, bah, Claude Monet, il écrivait pas, je vais aller peindre la meule de foin selon la lumière, etc. Il le faisait et on voit bien qu'il avait un bateau exprès pour peindre et tout ça. Donc, je pense que on devrait arriver au rapport qu'ont les peintres avec la peinture, qu'on devrait arriver au même rapport. En tout cas, moi, c'est quelque chose vers lequel je tends, quoi. Et donc, pour moi, c'est très important plutôt de commencer à monter très vite pour voir ce que j'ai fait, quoi.
Et alors, avant même le montage, vous dites qu'il faut exercer son geste, au fond, pratiquer comme un peintre pratique. Il y a une autre particularité de votre geste à vous, c'est que c'est vous, pour tous vos films, je crois, vous allez me dire si je me trompe, qui tenez la caméra. Vous faites vous-même le cadre de vos films, y compris dans les films de fiction, ce qui est rare, c'est-à-dire qu'en cinéma documentaire, ça arrive souvent que le réalisateur soit lui-même le cadreur. En cinéma de fiction, il est une distinction bien établie. D'habitude, il y a le réalisateur et puis le chef opérateur qui fait la lumière et qui souvent est aussi le cadreur. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous le fait de tenir la caméra, Claire Simon?
Ouais, parce que je sais pas le faire et que j'ai appris toute seule que c'est mon rapport physique avec les gens que je filme. C'est un rapport très physique, la caméra. C'est d'être avec eux dans le même moment, de faire les choix, d'être le premier spectateur, de choisir de façon très instinctive, sans avoir à défendre devant quelqu'un d'autre les choix que je fais. Du coup, je suis moins obligée de commenter, de dire c'était bien, c'était pas bien, etc. Parce qu'on fait la chose ensemble et on travaille, on fait la scène ensemble. Et c'est une chose que j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup filmer. J'ai pas appris traditionnellement, donc je suis maladroite. Mais j'ai beaucoup de plaisir à filmer les gens et les paysages et les corps. Et voilà, c'est une chose que... Et puis, dernière chose, quand on est une femme, c'est le seul moyen que j'ai trouvé, moi, pour avoir le pouvoir.
Voilà. Alors, on parle de rapport de pouvoir. Une autre ligne forte thématique de vos films qui se retrouve dans plusieurs films, c'est le travail. Vous aimez filmer des gens au travail, montrer le travail dans sa dimension à la fois concrète et aussi romanesque, aventureuse, épique même parfois, Claire Simon. C'est vraiment le cœur de votre série Le Village qui nous montre, je l'ai dit, en parallèle, le travail de ce groupe de gens qui à l'USAS œuvrent pour lancer Tenk en particulier, hein, cette plateforme de documentaires qui permet, qui existe désormais, qui permet de voir des documentaires en ligne, et puis en parallèle le travail des agriculteurs du coin, d'un en particulier que vous suivez longuement, qui cultive des fruits. On voit aussi un vigneron qui fait du vin naturel. La série m'a fait beaucoup penser, quand je l'ai vue, à un film que vous avez mentionné tout à l'heure, qui s'appelait « Coûte que coûte », un film qui date de 95 et pour lequel vous aviez filmé la petite équipe d'une entreprise réunie autour d'un petit entrepreneur qui tentait vaille que vaille de faire vivre et survivre une petite entreprise de plats cuisinés pour grande surface. Est-ce que votre envie de tourner Le Village, cette série, elle est née de ce désir de renouer avec cette chose qui consiste à filmer des gens au travail, tout simplement?
Oui, oui. Enfin, de le désir, quoi. Le désir, ce qu'on fait toute la journée, il faut pouvoir en faire un récit épique, effectivement. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais en tout cas une histoire, que ça soit, que ça puisse être vraiment une histoire, puisqu'on y passe tant de temps et tant de passion. Et voilà, c'est vrai que c'est une chose qui me fascine. Après, l'USAS m'a toujours j'ai toujours été très impressionnée par ce village, par le geste de Jean-Marie Barbe et de tous ceux qui travaillent avec lui, de faire venir le cinéma documentaire dans ce petit village d'Ardèche, qui est comme un village de western avec une seule rue. Et j'ai toujours aimé, en allant à l'USAS, voir les tracteurs traverser les festivaliers et tout ça. Et je trouvais ça magnifique. Et puis de voir des films dans l'école, dans le hangar, dans voilà. J'étais très jalouse en fait, hein, parce que moi j'ai grandi pas loin d'un village et je me disais mais comment il a fait quand même. Waouh, c'est vraiment incroyable. Et puis un jour j'ai appris qu'ils avaient cette idée de. Alors ils montent une télé à l'USAS. Et que Jean-Marie venait à Paris.
Il monte une télé à l'USAS, c'est titre, je crois, du tout premier épisode hein, qui voilà. Présente un peu qu'est-ce qui se passe.
Et que donc, il vient à Paris chercher de l'argent, etc., essayer de convaincre des gens, trouver des partenariats, etc. Et là, je me dis, bon, quand même, là, c'est quand même, on a bu un coup avec ma productrice Rebecca Housel, et on a discuté de ça, et je lui dis, mais c'est vraiment génial, il faut absolument filmer ça. Et elle m'a dit, bah, banco. Voilà, et on est parti comme ça l'été 2015 sans la fleur au fusil, sans rien d'autre que cette idée. Et j'étais très impressionnée par c'est-à-dire des gens qui croient à leur histoire, qui ont un tel désir, et comment ils font avec leur désir. Un village, c'est un studio, c'est petit, on voit mieux les choses. J'ai appris ça avec Récréation ou avec Coûte que coûte, que plus c'est petit, mieux c'est pour le cinéma, parce qu'on voit mieux, quoi. C'est comme, voilà, comme une pièce de théâtre qui réduit un peu le monde à quelque chose qui devient plus intelligible. C'est un microcosme, quoi, voilà. Et donc cette idée, mais au début c'était très difficile, et puis je me trouvais contrainte à des choses que je déteste, c'est-à-dire filmer des débats, filmer des trucs, enfin je veux dire, j'étais dans la position la plus inconfortable qui soit. Des gens connaissaient mes films, ils me voyaient en train de filmer comme si j'étais, je sais pas, un espèce de reporter. Voyez, c'était très douloureux, et d'autant plus que j'avais pas eu le temps d'aller parler à tout le monde dans le village documentaire, que les gens étaient très méfiants, que il y avait.
C'est-à-dire que les gens en particulier qui travaillent à l'USAS et qui donc connaissent bien. Enfin, a priori, on peut imaginer qu'ils connaissent votre cinéma, qu'ils connaissent bien ce que c'est le documentaire, montrait une résistance
très affirmée, ouais, au début.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Il a fallu que j'explique que une grande réunion qu'on voit d'ailleurs dans le film, un séminaire d'entreprise où j'ai parce qu'il y avait des gens qui voulaient pas être filmés, etc. Et j'ai expliqué à ce moment-là, ça faisait déjà 3 mois que je travaillais, quel était mon projet, quoi. Et que mon projet, à ce moment-là, parce que j'ai commencé par la toute petite cellule de tank qui était minuscule et où ils imaginaient qu'est-ce que ça allait être cette plateforme, où ils cherchaient de l'argent, où ils se battaient dans tous les sens, ils faisaient des t-shirts, enfin c'était vraiment formidable. Et j'ai compris que il fallait absolument que je rencontre les agriculteurs parce que ce village est un peu rive droite, rive gauche, comme dit une jeune femme qui travaille avec l'agriculteur et qui dit rive droite, c'est les agriculteurs, rive gauche, c'est les imaginaires, c'est-à-dire ceux qui font le documentaire. Et donc, j'ai été à la conquête des agriculteurs. Et heureusement que j'en ai rencontré qui étaient très accueillants et surpris que je m'intéresse autant à tout dans leur travail. Et là, peu à peu, ça s'est construit ce miroir entre la culture et l'agriculture. Parce que, en fait, un jour, j'ai compris, avant l'histoire de Tank, quand Jean-Marie m'a expliqué, Jean-Marie Barbe, donc sa mère était l'épicière du village et son oncle et son père étaient agriculteurs, mais ils avaient compris qu'il fallait transporter les fruits et les vendre ailleurs. Et donc ils ont fait ça, le transport de fruits en plus de l'agriculture. Ils ont construit pour ça un hangar qui s'appelle le Joncas et où presque toute l'histoire du village se passe là, qui pendant l'année est un grenier du village où tout le monde, où il y a les pommes de Patrice, où il y a les restes du festival, où chacun va y mettre des choses. Et l'été, ça devient une salle de cinéma. Et en même temps, Jean-Marie, il rangeait des voitures. Enfin, c'est
on voit ce hangar dans la série.
Voilà. Et quand j'ai compris que tous les jours à table, dans cette maison Barbe, il y avait deux familles, plus les chauffeurs, plus les ouvriers agricoles et tout, j'ai compris que c'était une culture, si vous voulez, cette culture de l'entreprise, etc. Et que Jean-Marie avait entendu des histoires tout le temps à l'épicerie, des légendes, sur parce qu'il n'y avait pas toujours la télé, etc. Et que ce qui est très beau, c'est le basculement de l'agriculture, de l'économie villageoise à la culture, c'est-à-dire au cinéma documentaire, qui serait le cinéma du peuple, des peuples, de tous les peuples du monde, et des peuples aussi agricoles, quoi. Et c'est ce basculement qui m'a tout le temps fascinée. Évidemment, je pensais à Pierre Perrault, le grand cinéaste canadien, et je voyais bien que voilà, on voyait le passage de l'un à l'autre, comment la légende devient ce qui obnubile Jean-Marie Barbe et tous les jeunes gens qui viennent tous les étés et qui se disent, voilà, un nouveau cinéma est possible.
Et ce qui est très beau dans la série, c'est qu'on a l'impression, avec ce parallèle, qu'au fond, en dernière instance peut-être, ces gens qui travaillent pour la défense du documentaire de création, et puis les agriculteurs, au fond, ils font un peu la même chose, c'est-à-dire que leur travail procède des mêmes énergies, des mêmes passions.
Oui, parce qu'ils font, ils essayent de trouver un modèle économique viable, et qui leur demande parfois un travail de fou et des déconvenues terribles, pour faire ce qu'ils croient qui est beau. Voilà, que ce soit des fruits, du vin nature, du vin pas nature, des films documentaires qu'on montre à d'autres, voilà.
Je voudrais qu'on dise un mot de cette étape fondamentale dans la fabrication d'un film, qui est le montage. Est-ce que, pour vous, Claire Simon, c'est un moment d'écriture du film à part entière, ou est-ce que le tournage quand même prime ? Est-ce que vous passer de longs mois sur le montage. Je pense, j'ai en tête la manière dont Frédéric Wiseman travaille, par exemple, et on sait à quel point lui passe des mois et des mois et des mois à vraiment trouver son film au montage. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi ? Quel rapport vous avez à ce moment-là ?
Oui, mais je pense que Wiseman est vraiment un homme du montage et un monteur extraordinaire. Moi, comme je filme, moi, et que je prends des risques maximum au tournage, le montage est extrêmement important, mais n'est pas du même ordre que cette construction que Wiseman tourne pour avoir de quoi monter. Moi, je tourne pour tourner. Après,
ça veut dire aussi que vous n'avez pas un nombre d'heures de rush.
Si, si, j'ai beaucoup d'heures de rush parce que je recommence, parce que ça vient pas. Mais peut-être que j'en ai moins que lui, je sais pas. De toute façon, maintenant, on parle plus en heures, on parle en gigas. Donc, Mais par exemple, bon, en prenant, si on prend la série Le Village. Il y avait des tas de questions qui me hantaient dans l'histoire, des choses que j'avais envie. Moi, je parlais beaucoup avec Jean-Marie et je ne voulais pas faire d'entretien et discuter avec lui parce que je trouvais que c'était vraiment un personnage comme le maire, etc. Et que je les voyais à l'œuvre et que c'était ça qui était beau. Et donc, il y avait des tas de questions et des choses qui me racontaient que j'attendais de voir surgir. Et donc, je prenais le risque, par exemple, des saisons. C'est-à-dire que des histoires que j'avais, dont j'aurais eu besoin peut-être au troisième épisode, arrivaient au huitième. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant et qu'on a respecté avec Luc, de la même manière.
Luc Forveille, le monteur avec qui vous travaillez depuis plusieurs films.
Et vraiment, c'est un risque que j'ai pris aussi dans le bois. C'est-à-dire que les saisons, j'aime bien, c'est un truc assez classique de l'époque de Loulipo, quoi. C'est-à-dire, je prends des risques au tournage qui sont des risques sur lesquels je ne pourrais absolument pas revenir.
C'est la contrainte forte, ouais.
Oui.
Et par exemple, parce que dans le bois dont les rêves sont faits, le passage des saisons est très clairement marqué à l'image.
Et par exemple, quelqu'un m'avait dit, mais tu devrais mettre celui qui se promène, l'homosexuel qui se promène dans le bois, après la prostituée. J'ai dit, non, je peux pas parce que c'est l'automne et elle est en hiver, quoi. Donc, voilà. Et j'ai compris qu'il ne voyait pas les saisons. Donc, du coup, j'ai fait une voix qui dit les feuilles jaunissent, c'est l'automne, etc.
Parce pour que les citadins ne savent pas voir les saisons.
Oui. Mais pour qu'on comprenne ce risque, c'est-à-dire que disons que c'est donc une façon de mettre en scène qui est relativement improvisée, etc., mais dont je sais que c'est un risque maximum, quoi, si vous voulez.
Et qu'est-ce que vous attendez du monteur ou de la monteuse avec qui vous travaillez? De quel œil vous avez besoin à vos côtés à cette étape-là?
C'est le premier spectateur, on ferraille beaucoup, parfois on n'est pas d'accord sur certains films, mais on discute et Luc est vraiment un collaborateur très passionnant. Et puis, depuis, ça fait 4 ou 5 films, donc notre collaboration s'est beaucoup sophistiquée. C'est-à-dire que moi, je lui montre des choses auxquelles il réagit, il monte et il me montre des choses auxquelles je réagis, et on avance comme ça. Et se construit la ligne rouge du film.
C'est ça. Je voudrais qu'on dise un mot, on arrive bientôt déjà à la fin de cet entretien, au rapport que vous avez à la réception de votre travail, et ce à plusieurs niveaux. D'abord par les acteurs de vos films, et quand je dis les acteurs de vos films, je pense en particulier aux films documentaires, parce que dans les films documentaires, on filme des acteurs d'un genre un peu particulier, et la réaction que peuvent avoir les gens qu'on a filmés pendant longtemps parfois, et un moment, j'imagine, assez important. Je sais que vous avez présenté Le Village assez récemment à l'USAS. Qu'est-ce que ça change dans votre propre rapport à vos films, l'accueil que peuvent lui faire les gens que vous avez filmés, Claire Simon?
Je sais, ils savent qu'ils ne voient pas très bien le film. Avant beaucoup de temps, j'ai fait un film qui s'appelle Mimi sur une personne. Elle m'a dit qu'il lui avait fallu 7 visions. Bon, c'était un chiffre magique pour commencer à voir le film. Mais effectivement, là, à l'USA, c'était autre chose parce que c'est un village, parce que c'est la question du vivre ensemble, c'est l'agriculture et la culture, et que là, cette projection a été assez surprenante. Parce que tout d'un coup, il y a eu un dialogue entre l'agriculture et le documentaire, où tout d'un coup, ils se sont parlé autrement, ils ont compris Enfin, évidemment, Jean-Marie, il est fils d'agriculteur, donc il connaît parfaitement cette pression. Mais en tout cas, pour Patrice, qui voyait cette série pour la première fois.
Patrice, qui est l'agriculteur que vous suivez. Ouais,
il a tout d'un coup compris que le risque que lui prenait était pris de la même manière par les documentaristes. Et surtout, il a compris que ce qu'il pouvait penser et comment de son travail et comment il pensait, à quoi il pensait quand il travaille, etc., était tout à fait intéressant pour les autres gens. Ce dont il n'était pas il y a aussi une espèce de sentiment peut-être d'être un peu méprisé par les intellectuels qui viennent voir des documentaires à l'USAS, ce qui est faux de la part des gens qui viennent à l'USAS, mais il y a une compétition, une jalousie, etc. Et c'est vrai que le fait de voir les deux mondes dans la série a considérablement permis le dialogue, quoi. Ils se sont regardés, c'était assez beau.
Une dernière question, Claire Simon. Est-ce que vous avez l'impression que votre manière de tourner, de faire des films, quelle que soit l'étape, a changé au fil des années? Autre manière de poser la question, est-ce que vous avez l'impression qu'on progresse dans l'exercice de ce métier-là? Ou est-ce qu'au contraire, comme on le dit, on l'entend pas mal, faire un film, c'est recommencer toujours à zéro? Est-ce que quand même on apprend en faisant ce métier-là?
On fait un chemin. On fait un chemin, oui. Moi, j'ai l'impression d'avoir envie de faire à chaque fois d'autres choses, de tenter d'autres chemins. J'espère que je progresse, j'espère.
Mais ça veut dire que chaque nouveau film doit présenter l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau? Pour vous, c'est comme
non,
ça
c'est
aussi
une nouvelle expérience. C'est une expérience différente. C'est une expérience où j'aimerais sommer le cinéma de faire autre chose, de raconter, d'essayer une autre forme, de trouver une autre forme qui raconterait, non pas une forme, bon, c'est une forme pour une forme, mais comme dit Jean-Marie en citant Picasso dans la série, la forme est une vision du monde, il dit. Voilà. Donc, une forme, les formes changent le récit qu'on peut faire du monde, quoi.
La forme est une vision du monde. C'est donc sur cette belle citation qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Claire Simon, de vous être prêtée au jeu de cette masterclass. Voilà, d'avoir partagé quelques secrets de fabrication de vos films. Je rappelle donc que cette série Le Village sera diffusée à partir du 13 septembre sur Ciné+, que par ailleurs vos films, tous ceux dont on a parlé ce soir et les autres, tous ou presque sont disponibles en DVD ou en téléchargement VOD. On en donnera toutes les références sur le site internet de l'émission. Et puis merci aux équipes techniques de Radio France et à celles du Théâtre de l'Alliance Française qui nous accueillaient ce soir et au public venu nous écouter.
C'était la masterclass de Claire Simon avec Mathilde Wagman. Attachée de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.